Bonjour, ici Serge Bouchard. Je vais lire pour vous
Les yeux tristes
recueil
de mon camion.
Les yeux tristes de mon camion.
Je m'apprête
publié
à me départir
d'un
Boréal.
Trésor.
Nous ne nous apprêtons pas à nous départir d'un trésor. Nous l'avons perdu, ce trésor. Cet homme si rempli d'humanité qu'était Serge Bouchard. Ah, cette voix qui s'est éteinte. Je voudrais préciser que l'émission s'est enregistrée il y a 2 semaines et nous venions juste d'apprendre la disparition de Serge Bouchard. Je voulais à tout prix lui rendre hommage. Claudia Larochelle, qui sera là en seconde partie, était bien d'accord avec moi pour évoquer cet homme que nous aimions presque d'amour. Je m'appelle Clotilde Seille et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à l'émission des livres pleins les oreilles. J'aime tellement ma job, je l'aime particulièrement quand elle me permet de combler ma passion pour la lecture avec tout ce dont je raffole. Notamment une écriture coupée finement à la plume incisive et poétique, celle de Roxane Bouchard, une région que j'ai si hâte de découvrir, mes amis, les îles de la Madeleine, la mer qui me manque tant, des personnages hors du commun, une femme forte, des aventures océanes dramatiques. C'est simple, lire Roxane Bouchard, c'est vivre soudainement en pleine mer. Ça sent l'iode et le poisson frais. Et c'est tellement bon. Le 3e livre des aventures policières de Joaquin Morales s'appelle « Le murmure des Acapix ». Je me suis plongée là-dedans avec un délice. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que Roxane Bouchard a accepté avec joie de me donner une entrevue. C'est dans quelques minutes. Également, à l'émission, j'aime bien évoquer des auteurs dont les livres viennent d'entrer dans le domaine public. C'est le cas d'un certain Gaston Leroux, créateur d'un certain Rouletabille et d'un certain Fantôme de l'Opéra. Mais d'abord, pour accueillir Roxane Bouchard, ce monument du country des îles de la Madeleine, pêché aux îles de la Madeleine.
Mon père était pêcheur de morue toute sa vie. Il faisait le travail dur pour faire vivre sa grande famille. Il se levait chaque matin avant le soleil. Descendait son bateau du quai pour s'en aller. Car pêcher, pêcher aux îles de la Madeleine, beaucoup de travail, beaucoup de peine. C'est pas le temps flâner quand y a du travail à faire. Demandez aux pêcheurs s'ils ont le temps de prendre une bière.
Oh oui, y'a le temps.
Tu peux pas faire la pêche dans un bateau qui coule. C'est encore pire quand il y a de la houle.
Ou de la glace, hein?
Oh, beaucoup de glace. T'es comme de l'eau dans ton bateau pour arriver au quai. Descends de ton poisson, il te faut recommencer.
Recommencer à quoi?
À pêcher, pêcher aux îles de la Madeleine. Beaucoup de travail, beaucoup de peine. C'est pas le temps plané quand t'as du travail à faire. Demandez aux pêcheurs s'ils ont le temps de prendre une bière.
Oh ouais, petite frette, mon Denis, t'es là.
Des bottes de caoutchouc, de l'eau salée d'en face. On les boutons sur les mains, et des hémorroïdes dans les fesses.
Aïe, aïe!
Pêcher, pêcher, aux îles de la Madeleine. Beaucoup de travail et beaucoup de peine. C'est pas le temps flâner quand y a du travail à faire. Demandez aux pêcheurs s'ils ont le temps flâner quand y a du travail à faire. Demandez aux pêcheurs s'ils ont le temps de prendre une bière.
Elle savonne longuement ses mains, rougit par l'empreinte grasse du sang, puis courbe la tête sous le jet, fait mousser le shampoing dans ses cheveux, touche du doigt une vertèbre qui, paraît-il, saille sous sa peau. À la fin d'une enquête en collaboration avec la Sûreté du Québec l'automne dernier, alors qu'elle était penchée sur la rédaction de son rapport au poste de Gaspé, la gente des pêches avait soudain senti un effleurement, presque une caresse, sur sa nuque. Elle avait sursauté, tourné la tête. Le sergent Morales, son supérieur dans cette affaire, avait retiré sa main, honteux, comme s'il s'était lui-même surpris à faire ce geste déplacé. « Il y a... tu as une vertèbre qui ressort, là. » Elle avait rougi comme une adolescente, remonté pudiquement son col avant de comprendre qu'il était ému, lui aussi. Il s'était excusé, puis avait pris la direction de la porte. Mais au lieu de la franchir, il s'était immobilisé. Tu pars quand pour les îles?
Dans quelques jours.
Et tu reviens quand?
À la fin mars.
T'appelles à ton retour?
Elle avait soufflé un oui ébranlé, et il avait quitté la pièce en se cognant l'épaule contre le cadrage.
Bonjour Roxane Bouchard.
Bonjour Clotilde.
Est-ce que vous l'avez bien ri, là, à la tounette que je vous ai trouvée pour vous accueillir?
Ah, c'est ça! Merci beaucoup.
Ben écoute, la pêche aux îles de la Madeleine.
Oui, mais savez-vous quoi?
Non.
Je suis amie avec différents pêcheurs et Madelino.
Ah!
Et régulièrement, il m'en envoie des chansons par courriel, par Internet.
Pour vous mettre dans le bain.
On me met dans le bain régulièrement. On voit des vidéos, des photos, des chansons. J'aime beaucoup ça. Je suis beaucoup amie.
Roxane Bouchard, qu'on vous présente beaucoup, Roxane, bon, évidemment, comme l'auteur, l'autrice. Est-ce que vous préférez autrice ou auteur? Parce que maintenant, je m'ajuste.
Mais je préfère autrice pour une raison bien simple, c'est qu'auteur, pour savoir que c'est une femme, il faut dire auteur.
Ben oui, c'est
très
ça.
Très déplaisant. Autrice, c'est comme actrice.
Mais vous savez, je demande parce qu'il y a encore des femmes qui veulent pas qu'on les appelle autrice. Oui, c'est pour ça que maintenant, je veux pas créer de remous. Alors, Roxane, on vous présente beaucoup comme quelqu'un qui lit beaucoup, quelqu'un qui rit beaucoup et quelqu'un entre deux qui s'isole beaucoup. De quoi et où vous isolez-vous?
Ben, en fait, je m'isole beaucoup des nouvelles. Par exemple, tous les points de presse du gouvernement sur la COVID, à un moment donné, ça devient un peu étourdissant et ça mine le moral. Mais c'est pas juste là-dessus, c'est toutes les nouvelles internationales. En fait, savez-vous quoi? C'est que mon conjoint, avec lequel je suis depuis plus de 10 ans maintenant, il fait un tri des nouvelles pour moi. Il me fait un résumé quotidien de nouvelles parce que sinon, je suis hyper sensible à toutes sortes d'événements tragiques qui se passent dans le monde. Alors, peut-être qu'écrire, c'est une forme de refuge contre tout ça.
Ouais. Oui,
donc,
oui.
L'isolement, c'est un peu pour ça, en fait, pour faire attention à mon moral, rester positive, essayer de garder une énergie qui fait du bien, de solidarité aussi.
Oui.
Pour garder cette énergie-là, j'ai besoin, oui, de me retirer.
Je vous comprends. Je vous comprends vraiment beaucoup. Le troisième livre de la série où l'on retrouve l'inspecteur Morales s'appelle « Le murmure des acapix ». Maintenant que j'ai lu le bouquin, je sais ce que sont les acapix. Mais pourriez-vous nous le dire, peut-être pour les gens qui en ce moment se disent, peut-être comme moi, est-ce que c'est une tribu que je ne connaîtrais pas?
une de mes amies, quand j'y ai dit, ça va s'intituler Le murmure de Zacatec, elle m'a dit, est-ce que c'est des Amérindiens?
C'est ça.
En fait, le mot est d'origine norvégienne et c'est une arme qu'utilisent de façon traditionnelle, mais courante, là, les chasseurs de phoques, notamment les madelinos. C'est un grand bâton de bois muni d'une tête de métal. D'un côté de la tête, il y a une sorte de marteau et de l'autre côté, il y a un crochet. C'est obligatoire lors de la chasse au phoque, il faut, avec le marteau, défoncer l'occiput de l'animal pour s'assurer d'une mort rapide. Mm-hmm. Ensuite, avec les hommes ouvrent l'animal pour le saigner et avec le crochet, ils tirent la bête sur la glace.
OK. Bon. Ça, c'est dit, mais on va y revenir à cela, à cette chasse au phoque, parce qu'elle est importante dans bien des pages de votre livre. Un livre, donc, où l'on retrouve Morales. Alors, il est où, Morales? Eh bien, il est contre toute attente en vacances au ski. Alors là, on l'attend. Il y a deux endroits où je ne l'attendais pas. C'est en vacances au ski et sur un bateau de croisière. Paf! Les deux. Allez, hop!
Mais dans le premier, dans nous étions seuls la mer, ils s'en allaient en Gaspésie. Il avait droit à trois semaines de vacances qu'il ne pouvait pas prendre. Dans le deuxième, il demande des vacances à sa patronne parce que son fils débarque, il ne peut pas les prendre. Fait que là, je me suis dit, là, il va y avoir droit aux vacances, mais ça ne se passe pas bien finalement.
Alors, si les gens se demandent, mais alors qu'est-ce qui s'est passé, comment il va, permettez-moi que je vous cite et que je cite Joaquin en page 124 de ce livre. Depuis un an, j'ai déménagé, je me suis adapté à ma nouvelle patronne, je me suis fait niaiser par les pêcheurs, mentir par mon épouse, j'ai accueilli mon fils en crise et j'ai perdu mon ami Cyril et puis j'ai divorcé.
Oui, voilà.
Alors, si vous vous demandiez où est-ce qu'on en était avec Morales, eh bien voilà, tout est dit. Et puis, alors donc, on le retrouve alors non seulement en train de faire du ski et de s'emmerder royalement, mais en plus, il a emmené dans ses bagages, ça, j'ai trouvé ça tellement bon comme flash, 100 ans de solitude.
Oui, mais c'est un livre sur les choix. Hein,
mais oui, c'est ça.
Il va jusque dans les mauvais choix de livre pour sa compagnie. Oui,
c'est ça. Alors, pendant ce temps-là, un crabier quitte le port de Cap-aux-Meules pour une sortie de pêche au phoque, avec à son bord des durs de durs et une femme, Simone Laure, dont on se dit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette galère?
Oui. Hein? Vous avez Molière au bout des doigts.
Oui, mais non, oui, mais c'est ça. Oui, absolument. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai, pareil.
Elle est observatrice. Il y avait, aujourd'hui, il y en a moins de ça. En fait, j'ai récupéré ce métier-là, là, qui est observateur de chasse et de pêche. En fait, elle est observatrice pour Pêche et Océan Canada. Et elle va surveiller donc une chasse, mais depuis plusieurs années. En fait, il faut savoir que les observateurs de Pêche et Océan Canada ne sont plus sur les bateaux de chasse. Ils sont à bord des bateaux de la garde côtière. Ce qui n'aurait pas été mieux dans ce cas-ci pour elle, parce que j'ai vraiment pas de bons gardes côtiers dans mon livre. Mais non. Ça a déjà existé, en fait, des observateurs embarqués. Il y en a encore, d'ailleurs, pour les pêches.
Alors, on doit se dire, est-ce que c'est pour le quota? Mais ce n'est pas pour les quotas en ce qui concerne les phoques. C'est
non,
pour la manière.
Non, il n'y a pas de quota. Oui, c'est pour la manière d'abattre. Mm-hmm. Ça, il y en a encore. Il y a beaucoup de surveillance pour la manière d'abattre, évidemment, parce que des groupes animalistes surveille ça de près, alors les chasseurs ne vont pas faire de gaffe. Et Pêche et Océan non plus.
Alors,
c'est très surveillé.
Roxane Bouchard, oui, une écriture poétique, clairement, encore et toujours. Oui, la présence de la mer aussi, clairement, celle de l'inspecteur Morales. Mais je ne sais pas pourquoi, Roxane, j'ai l'impression que ce tome 3, hein, parce qu'il faut rappeler que c'est le troisième d'une série, il est différent des deux autres. Le deuxième, c'était
La
mariée de corail, c'est ça. Et le premier pour lequel nous étions parlé, c'était Nous ne sommes plus le...
Nous
étions le sel de la mer, voilà. Mais je ne sais pas, j'ai le sentiment que c'est parce que dans les... On était vraiment, dans une affaire policière et tout, Morales. Mais là, Morales, ce n'est pas le centre de ce livre-là?
Il y a deux affaires que je voulais faire avec celui-là. Uh-huh. D'abord, dans le premier, Morales, ça arrive. Pour moi, c'était pas vraiment un roman d'enquête.
Mais non, après,
donc j'ai été un peu piégée par on l'a mis dans le roman d'enquête. Donc j'ai fait, pourquoi pas? Donc, le deuxième, il respecte vraiment bien, la mariée de Corail respecte vraiment bien la définition, si on veut, d'un roman policier.
Oui, un polar. Oui, oui.
On a le meurtre au début, puis après ça, il y a l'enquête. Mm-hmm. Maintenant, celui-là, je voulais faire autre chose. Je voulais faire un thriller. Mm. Là, c'est le contraire. Le thriller, c'est qu'on a une enquête avec une atmosphère qui se referme et qui crée une tension et de la peur. Donc, le genre, si on veut, est un peu différent. Je suis passée du roman d'enquête au thriller. Et ça, il faut, je pense, modifier son écriture en faisant ça, c'est-à-dire que l'enquête, elle peut être ralentie par de faux indices. Or, le trailer, lui, pour créer la tension, il doit avoir, je crois, une plus grande efficacité du langage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sang, de coudes, parce que tout ça, ben, évidemment, ça crée une tension sur ce qui se passe à bord du bateau de chasse, oui. Qui met éventuellement Simone dans une posture fort délicate.
Oui, c'est ça. Mais ça, on n'en dira pas plus. Je vais tout de suite vous confier quelque chose. Pour l'instant, je me suis arrêtée à la page 161. Vous savez pourquoi je fais ça, hein? C'est pas pour je fais ça lorsque on parle d'une intrigue comme celle-ci, parce que généralement je lis les bouquins, mais là j'avais tellement peur de m'échapper. Alors je me dis non, il faut que moi aussi je découvre ce qui va lui arriver, ce qui va arriver dans la dernière partie du livre, dans les 100 dernières pages. Alors pour l'instant, du coup, je pourrais pas. Voilà, parce que parfois on me dit « Ah, t'as tout dit !» Non, ben là, je peux pas tout dire, parce que je suis comme vous, je ne le sais pas. On est sur ce bateau qui suinte l'angoisse, l'événement tragique. C'est un peu comme un huis clos, finalement, en tout cas, toutes les scènes sur le bateau, là.
Oui, mais en fait, c'est ce que je voulais faire. Moi, j'ai écrit ce livre-là en confinement.
Ah, j'allais vous le dire. Est-ce que c'est le confinement qui vous a... Bon.
Ben, en fait, moi, j'ai eu un double confinement parce que, en même temps qu'on était en confinement, j'ai une capsulite dans l'épaule gauche qui m'empêchait d'écrire.
Ça, c'est l'horreur.
Alors, c'est un roman que je me suis dicté sur une chaise. Et là, je le dictais avec les fonctions là, de nos téléphones cellulaires où tu dictes, puis ça devient du texte avec plein de fautes d'orthographe, puis je corrigeais avec le pouce de la main droite. Alors, c'est donc pour moi, cette idée-là d'enfermement, elle était très présente, puis je le voyais chez des gens autour de moi. Ce qui fait que cette idée-là que Simone allait aux Îles-de-la-Madeleine, elle est déjà éloignée de chez elle parce qu'elle habite la Gaspésie. Ensuite, elle embarque sur un bateau, donc elle s'isole encore plus.
Oh là là, oui.
Et après ça, ce bateau-là va être coincé dans les glaces.
Oui.
Et donc, pour moi, c'est un super huis clos. Là, oui.
Absolument.
Difficile d'être... Puis en plus, il n'y a pas d'onde cellulaire où elle est. Donc, elle est coincée dans une situation où elle est très, très, très isolée, très enfermée.
On est mal pour elle. On est mal pour elle. Puis alors là, forcément, on se dit, et je ne le sais pas, qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne peux pas croire. Il va sûrement se passer quelque chose. Bon, de la même façon qu'on s'aperçoit bien rapidement que la pêche au phoque, ça cache peut-être autre chose. Enfin bon, ça, tout ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Je n'en sais fichtre rien. On voit passer toutes sortes de personnages dans le bouquin. Est-ce que c'est bien le curé qui sacre comme un cochon dans le café? Ou est-ce que j'ai pas compris? Ah, alors j'ai mal compris le dialogue, mais ça aurait été drôle.
C'est le pêcheur Vital Bugeaud, il sacrait des... En fait, c'est son expression, il dit toujours Saint-Thibord de Calais.
Oui, c'est ça. et moi, je pensais que c'était le curé, puis là, je relisais, je dis, écoute donc, c'est-tu le curé? Et je me suis dit, quel flash, quelle bonne idée, un curé qui sacre comme un cochon. tout d'un coup, on voit arriver Chris Hadfield, l'astronaute, pouf.
Oui.
Bon.
C'est parce que Morales, il est sur le bateau de la traversée de la Gaspésie. Et lors de cette traversée-là, c'est comme une activité de groupe. La traversée de la Gaspésie est un événement qui existe pour vrai. Et tous les hivers, il y a des groupes de skieurs. Il y a un groupe de skieurs qui se ramasse ensemble pour faire certaines pistes. Et il y a une année, je crois que c'est 2010, où les organisateurs de la traversée avaient loué un bateau du CTMA. Ils partaient de Montréal, ils s'en allaient jusqu'en Gaspésie et ils faisaient des haltes de ski de fond. Or, le fleuve a gelé et le bateau a été pris dans les glaces, lui aussi, dans le fond, comme le bateau de Simone Laure. Alors, je voulais recréer une situation parallèle entre Morales et Simone Laure. Et sur ce bateau-là, il y a des conférences. Il y a effectivement eu des conférences, une conférence d'un astronaute. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir une conférence d'astronaute parce que le personnage se demande où est-ce qu'il est, oui. Morales, puis oui. Il se sent très, très, très lourd. Puis là, il y a une conférence d'un astronaute qui dit, mais ce qui est bien, c'est quand on se sent en apesanteur. Et là, Morales va avoir envie de se sentir en apesanteur,
oui.
Du monde,
oui.
Tout comme Simone a envie de se sentir, elle, oui. Aussi en apesanteur de toutes ces lourdeurs,
bon.
Qui...
Alors, ces deux-là, il y a quelque chose qui n'est pas fini. Là, c'est pareil. Est-ce que... Je ne sais pas. Est-ce qu'on va assister à des retrouvailles? Je ne sais pas. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'ils vont se marier, avoir beaucoup d'enfants? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, le livre de Roxane Bouchard, le murmure des Acapics, est maintenant disponible en version audio. Vous allez retrouver ça sur le catalogue de Vues et Voix. Et c'est lu par Paul Doucet. Paul Doucet qui, malheureusement, est en tournée, je vous demande où?
Ouais.
En Gaspésie.
En Gaspésie,
oui,
au de la Madeleine.
C'est ça. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être avec nous. En tout cas, ce n'était pas facile non plus par téléphone. Mais on l'embrasse et on lui dit bravo pour son beau travail. On va écouter un deuxième extrait. On n'est pas encore dans l'angoisse profonde. Là, on est dans la description. Et là, toute votre écriture prend forme et nous offre tout ce qu'on aime chez elle. On écoute cet extrait.
Merci.
La lumière de la lune est tamisée par l'abat-jour de soie blanchâtre des nuages. À l'ouest, les falaises découpent le terrain. La semaine dernière, un pan de grès rouge s'est affaissé dans l'océan. Pas un grand morceau, à peine 2 mètres par 1 mètre. Mais Simone était dehors à ce moment-là. Elle a entendu le sol craquer. Elle a vu le plateau se fissurer et, dans un grondement sourd, tomber d'un coup dans le golfe du Saint-Laurent. La glace a fondu sous le poids de la terre. Des gerbes d'eau ont giclé vers le ciel, ont chuté sur le terrain, coulé vers la mer. En filigrane, contre la bordure de l'escarpement, de larges doigts de givre sont restés imprimés comme si un monstre marin s'agrippait à la falaise pour grimper jusqu'à la maison. Au nord, un sentier mène aux dunes, là où l'amophile, courbé par le frimas de cette fin de janvier, vibre dans la complainte lancinante du norrois. Les autres côtés de la demeure sont protégés par des buissons d'épinettes noires, dont ne subsiste parfois qu'un tronc gris, hargneux, hérissé de branches cassées aux pointes affilées, comme des poignards. Ils poussent penchés vers l'est, constamment secoués par les coups hachés du vent. Leur tête touffue d'épines dures exécute dans la bourrasque rude des mouvements semblables à ceux des jeunes rockers dans les crescendo saccadés de la musique heavy metal.
Et on y est. On y est vraiment en Gaspésie à ce moment-là. Vraiment, j'ai une profonde admiration et estime pour votre écriture. Je voudrais, par exemple, j'ai relevé cette phrase. On parle de Joaquin et Sarah, et vous écrivez séparément. Bah, c'est vraiment pour la beauté de la phrase. Séparément, Joaquin et Sarah avaient mis fin à leur histoire d'amour en silence, comme jadis, ensemble et émus, ils en avaient signé les prémices sur l'autel de la foi.
Eh ben.
Oui, bah oui. Eh ben, c'est de vous, ça.
c'est très étrange de s'entendre lu par quelqu'un d'autre. Même quand j'écoute Paul qui lit mon
oui.
texte, c'est très étrange. Ah ouais, j'ai écrit ça. Hein?
Oui, oui, vous avez écrit ça. Et vous nous avez éclairé beaucoup. Je voudrais qu'on finisse là-dessus. C'est sûr que les animalistes, bon, Brigitte Bardot en tête, on fait très mauvaise presse aux chasseurs de phoques il y a quelques années, on s'en souvient, et plus oui. spécifiquement sur la façon de les tuer. Les images ont été abondamment diffusées de cette banquise rouge de sang, de ces oui. petits blanchons-là. Et il y a, vous le dites bien, je veux dire, les pêcheurs, bon, même si ce sont des méchants, on va l'apprendre au fur et à mesure, mais avant tout aussi, ce sont des gens qui pêchent le phoque et qui le disent, qui disent de toute façon, si on ne le fait pas, ça va vite devenir un problème parce que la population des phoques va se multiplier et c'est toute la faune et la flore qui en pâtit. Donc, vous portez à la défense de ça?
Ben, je me porte à la défense, oui, non. En fait, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est une trop grande abondance de phoques qui, les phoques mangent des crustacés, mangent des poissons et détruisent un environnement. J'ai parlé avec des gens, même de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui disent que c'est catastrophique. Maintenant, c'est clair que les images d'abattage de phoques sont très dures à voir parce que c'est du sang rouge sur une banquise blanche. Mmh. Et donc, c'est très choquant. Mais moi, dans le fond, je me porte ni à la défense d'un ni de l'autre. Moi, je suis végétarienne dans la vie, mais j'en mange. Quand je vais aux yeux de la Madeleine, je trouve ça bon, le phoque.
Oui,
sauf
oui.
que c'est sûr que le discours qui est porté dans le roman, c'est le discours des pêcheurs de phoque, puisqu'on nous sommes avec des pêcheurs de phoque dans le livre, des chasseurs de phoque, pardon. Donc, c'est clairement l'angle que je suis obligée de prendre parce que c'est eux qui portent ce discours-là. Puis pour moi, ça a été, quand je suis allée rencontrer des chasseurs, ça a été très éclairant sur quand même un grand respect de la ressource, de l'animal. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Puis j'avais envie quand même que ces informations-là, parce que dans le fond, le livre se situe à la chasse aux phoques, j'avais envie que ces informations-là apparaissent aussi, que le point de vue des Madelinots soit là, puisque nous sommes embarqués avec des Madelinots.
Bien sûr, et on va se finir sur encore un très court extrait. On vous parlait d'un, je ne sais plus lequel, qui dit « C'est difficile de tuer de loin, avec la carabine, l'adrénaline, le télescope et le bruit de la détonation, c'est pas pareil. Mais quant à la bête au bout du bâton, tu veux pas qu'elle souffre. Ta première expérience te rend conscient de ton geste pour toutes les fois suivantes. T'enlèves pas la vie pour rien, pour te nourrir puis pour gagner ton salaire. Paraît que les Inuits remercient chaque animal de s'offrir pour sustenter les familles. Ils hochent lentement la tête. Faut être reconnaissant. »
Mais savez-vous qui m'a dit cette phrase-là?
Non.
Le boucher... Régent Vigneault de la boucherie Côte à Côte des Îles-de-la-Madeleine, le spécialiste de la viande de phoque.
C'est vrai.
Oui,
mais c'est magnifique.
Il m'a même dit, j'aimerais ça que tu dises ça dans mon roman, que dans ton roman, que on est reconnaissant pour ça. Je trouvais ça très beau.
Moi aussi. Moi aussi. Alors voyez-vous, au milieu de toutes ces magnifiques phrases que j'ai lues dans Le Murmure des Agapiques, troisième livre de cette série consacrée notamment au personnage de Joaquin Morales, signé Roxane Bouchard, que je recevais à l'instant. Alors je rappelle que ce livre est en audio maintenant, lu par Paul Doucet au catalogue de Vues et Voix. Roxane, c'est toujours un plaisir. Il ne nous reste plus qu'une trentaine de secondes, mais on dit jamais 203. Est-ce qu'on peut dire jamais 304? C'est prévu?
Oui.
Ah, oui. Quel bonheur.
Je vous remercie beaucoup. Et en attendant, je vous souhaite à tout le monde une bonne chasse.
À quoi, on ne saura jamais. Mais merci infiniment, Roxane. Allez, au revoir. Merci. Bye. Restez là, on va parler de Serge Bouchard dans quelques minutes avec Claudia La Rochelle. Des livres plein les oreilles, la suite. Alors d'abord, vous précisez que cette émission, vous pouvez l'écouter en podcast, en balado, vous pouvez l'écouter à Canalem, bien sûr. C'est Canalem, la radio de Vues et Voix, qui produit cette émission, qui est diffusée à partir du jeudi à midi. Mais à partir de là, vous pouvez la réécouter quand bon vous semble sur le site internet. Ou alors, vous pouvez aussi écouter cette émission à CKVL où elle est reprise. Alors, dans cette seconde partie, Claudia La Rochelle va m'accompagner pour évoquer la vie, la mort, l'humanité et les livres de Serge Bouchard, dont certains se retrouvent en audio lus par lui-même. Du bonbon pour les oreilles. Mais pour commencer, les livres de Gaston Leroux sont aujourd'hui du domaine public, dont l'extraordinaire aventure du fantôme de l'opéra.
Au fond, qui l'avait vu? On peut rencontrer tant d'habits noirs à l'opéra qui ne sont pas des fantômes. Mais celui-là avait une spécialité que n'ont point tous les habits noirs. Il habillait un squelette. Du moins, ces demoiselles le disaient. Et il avait naturellement une tête de mort. Tout cela était-il sérieux ? La vérité est que l'imagination du squelette était née de la description qu'avait faite du fantôme Joseph Buquet, chef machiniste qui, lui, l'avait réellement vu. Il s'était heurté, on ne saurait dire nez à nez, car le fantôme n'en avait pas, avec le mystérieux personnage dans le petit escalier qui, près de la rampe, descend directement au-dessous. Il avait eu le temps de l'apercevoir une seconde, car le fantôme s'était enfui et avait conservé un souvenir ineffaçable de cette vision. Et voici ce que Joseph Buquet a dit du fantôme à qui voulait l'entendre. « Il est d'une prodigieuse maigreur, et son habit noir flotte sur une charpente squelettique. Ses yeux sont si profonds qu'on ne distingue pas bien les prunelles immobiles. On ne voit, en somme, que de grands trous noirs, comme au crâne des morts. Sa peau, qui est tendue sur l'ossature comme une peau de tambour, n'est point blanche, mais vilainement jaune. Son nez est si peu de chose qu'il est invisible de profil. Et l'absence de ce nez est une chose horrible à voir. Trois ou quatre longues mèches brunes sur le front et derrière les oreilles font office de chevelure. »
Le fantôme de l'opéra, ça c'est un livre audio qui est sorti en 2015. On le retrouve entre autres sur Audible. Ça avait été produit par la Cité du Savoir et c'était lu par Philippe Collin. Le fantôme de l'opéra, ce roman qui est d'abord apparu en feuilleton dans une petite revue qui s'appelait Le Gaulois. On est là dans les années 1910 à peu près. C'est un roman qui s'inspire, on n'est pas certain, mais on pense que ça s'inspire d'une histoire d'amour dans l'ancien opéra et à Paris, et par des rumeurs qui ont couru sur de prétendus mystères provenant des dédales souterrains de l'Opéra Garnier à Paris. Nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le peuple qui n'a pas accès à ce lieu réservé aux privilégiés aime alors évidemment l'associer à des légendes. Mais il est possible aussi que Leroux, en mettant en scène cette espèce de fantôme qui menace de faire exploser la salle de spectacle, fasse allusion à des incendies très très fréquents à cette époque, hein, en raison de l'emploi de bougies notamment, et les décors qui étaient faits en toile dans les théâtres étaient très 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 inflammables. Par exemple, en 1873, il y avait eu un incendie à l'opéra qui s'appelait Le Pelletier, qui avait fait de très nombreux morts, dont une danseuse et son fiancé, lequel fiancé aurait survécu défiguré par les flammes. Et puis, il y a aussi eu l'incendie de l'Opéra Comique en 1887, et il y a eu cet incendie au Bazar de la Charité le 4 mai 1887. Ça me donne envie de vous faire de la publicité pour une série qui est diffusé sur Netflix et qui s'appelle Le Bazar de la Charité et qui relate cet épisode parisien dramatique de ce bazar, une espèce de renaissance, si vous voulez, sous forme de marché qui a brûlé. Et il y a eu erreur sur erreur au moment du sauvetage de ces pauvres malheureux qui se sont retrouvés prisonniers des flammes et surtout des femmes, énormément de femmes qui venaient trouver là toutes sortes de trouvailles au profit des bonnes œuvres de Paris. Alors, voilà en ce qui concerne Monsieur Leroux, Gaston Leroux, qui a grandi en Normandie, lui aussi, qui est devenu en 1901 un grand reporter. Il a été notamment en Espagne, au Maroc, et même aussi en Russie. Et c'est lui aussi qui a créé le personnage de Joseph Rouletabille, ce jeune apprenti reporter, qui a une intelligence déductive hors du commun. Et nous, ça nous faisait rêver à la télévision les épisodes de Rouletabille avec cette musique et un extrait des Noces étranges de Rouletabille. «
À Sofia, Rouletabille est reçu chez l'oncle d'Ivana. Et il ne cache pas à la jeune fille qu'il l'aime et que son désir le plus ardent est de l'épouser. Celle-ci, qui semble nourrir également des sentiments assez vifs pour le jeune homme, lui répond cependant en tentant de le détourner de son dessein. Ivana se prétend vouée, comme son père et sa mère et sa petite Irène, morts tous trois assassinés par un ennemi de la famille, à une destinée tragique. Cet ennemi s'appelle Golov, un Bulgare chassé de Bulgarie et qui s'est fait turc, mahométan, pomac, ce qui est tout dire. Il habite dans une sorte de forteresse extraordinaire au cœur des montagnes du nord de la Thrace, dans l'Istranja Dag. Et de là vient de temps à autre, pour de mystérieuses et cruelles besognes, en Bulgarie. Nul n'a encore pu l'atteindre. Golov brave le genre humain dans son redoutable château noir, c'est-à-dire le caracoulé. Toute cette affaire n'est point, comme bien l'on pense, pour refroidir l'amour de Rouletabille. Il arrivera bien, lui, à débarrasser la famille Vilichkov de l'affreux Golov, qui s'appelle aussi en Turquie Kara Selim. Il demande seulement à la jeune fille de bien vouloir lui accorder sa main.
Alors, si vous vous demandez si le mystère de la chambre jaune, notamment, est en audio, bien sûr que oui, sous toutes sortes de formules différentes, en formule accessible pour les personnes mâles ou non-voyantes, en formule également accessible gratuite en livre numérique ou en livre audio sur certains autres sites ouverts absolument à tout le monde, d'autant plus que maintenant, l'œuvre de Monsieur Leroux vient de passer au domaine public. Une petite chanson, juste le temps de joindre Claudia La Rochelle, et ce sera un spécial à Serge Bouchard.
Je suis dans mon camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Des fois je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard quand on sera des bons vieux. Moi je vis juste pour toi, j'ai hâte à la fin de semaine. Je t'aime. De cogner du marteau quand tu fais du gâteau. T'es si belle au fourneau. Mais je veux mieux pour ma reine. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine. Enlever le comptoir à mélamine. Pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je dors dans le camion 4 nuits par semaine. Je t'aime. 3 heures du matin réveillé par la faim. Mon petit lit dans la cabine est ben trop grand pour rien. J'ai des idées pour la salle à manger. Je t'aime. J'ai hâte d'en jaser autour d'un bon café. J'ai acheté des néons, ce que tu m'avais demandé. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine. Enlever le comptoir à mélamine. Que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je suis dans mon camion quand la neige a de la peine. Je t'aime. Quand le vent trop jaloux, la garoche entre mes roues, j'ai autour du cibi un vieux chapelet jauni. tu me l'as donné en pleurant comme une folle. Je t'aime parce que t'es ben croyante, puis t'as peur quand il vente. Assoir ton camionneur, rentrera plus de bonheur. Suffit que tu me dises que c'est ben plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras à mélamine te lèvent d'un air loin de la tuque et Trois-Rivières. Toi la plus belle de l'univers. Suffit que tu me dises que c'est ben plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras à mélamine te lève d'un air loin de la tuque et Trois-Rivières. Toi la reine de mes je t'aime. Toi la reine de mes je t'aime.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Super choix que cette chanson du camionneur, écrite et interprétée par Fred Pellerin, qui nous amène tout naturellement vers Serge Bouchard et vers Claudia La Rochelle. Bonjour, Claudia.
Ah, bonjour, Clotilde.
Dure semaine, hein? C'est tristounet, hein, ce départ soudain de cet homme qu'on aime tant aimer, qu'on aimait tant aimer, hein?
Ah, vraiment, tellement. Je pensais pas que ça allait m'affecter à ce point-là, parce que des gens qu'on pense insubmersibles, immortels, éternels, puis il me semble dans ma tête que Serge Bouchard en faisait partie. Bien sûr, je savais qu'il était malade, mais je l'avais interviewé pour Avenue.ca au mois de novembre dernier, donc et je le sentais cassé par l'amour. En fait, la perte des femmes de sa vie, là, de manière successive au fil du temps, il y a eu Ginette, de son amour de jeunesse, puis ensuite, il y a eu sa Marie-Christine, qui lui avait, Marie-Christine Lévesque, écrivaine, qui lui avait insufflé comme une deuxième chance de vivre. Et j'avais ressenti que, dans ces dernières années, il était habité par elle, par sa force et sa fougue. Puis là, quand elle est décédée 8 mois avant lui, ou en tout cas quelques mois avant lui, là, j'ai senti qu'il était brisé. C'était un homme un peu cassé, puis toujours aussi généreux, gentleman, formidable, mais cassé quand même par l'amour. Et ça m'avait tellement attristée. Donc, je pensais quand même qu'on allait le garder très longtemps.
Oui, moi aussi.
Tu sais, hein?
Moi aussi. Moi, je me dis, ma première réaction, ça a été bazar. À quoi ça tient la vie? À un battement de cœur? Parce que dans son cas, le cœur s'est arrêté. Puis quand tu dis que quand c'est le cœur d'un homme comme ça, ben, veut pas, c'est un peu le nôtre, hein, qui vacille aussi un peu. On l'aimait d'amour, quasiment. Et d'ailleurs, lui, l'amour, j'aime bien que tu aies commencé cet entretien-là en parlant d'amour, en parlant des deux femmes qu'il a tellement aimées, qui sont toutes les deux parties du cancer. Et lui, dont il a toujours dit de l'amour, c'est l'amour qui m'a porté toute ma vie.
C'est l'amour disparu qui l'a achevé.
Moi, je pense qu'à un moment donné, il fallait peut-être en appeler de je ne sais qui, et puis quelqu'un, quelque chose l'a écouté, et puis a débranché la machine. Rappelons un petit peu, si tu veux, ensemble. J'ai trouvé que la chanson, évidemment, du camionneur était tout à fait bien choisi.
Par exemple, tu sais, je l'écoutais, c'est le pont.
Ben oui, moi aussi, mais oui. Tellement beau. Et puis, parce que lui qui aimait tant les camions, qui aimait tant aussi les camionneurs, les gens qui les pilotaient, qui aimait. Ah, c'est ça.
Ben, c'est ça, parce que c'était, d'ailleurs, je l'imagine très bien aujourd'hui sur son camion ailé, un camion avec des ailes qui se promènerait au-dessus de nous, dans notre ciel québécois. Je l'imagine faire ça. C'est un homme qui est né le 27 juillet 1947 hein, sur Saint-Dominique, donc dans la petite Italie. et à Montréal, donc. Et puis, bon, plus tard, il déménage avec sa famille dans Pointe-aux-Trembles. Mmh. Et puis, c'était dans un milieu qui était essentiellement ouvrier, ouais. pas très riche non plus. Hein. Mmh. Il y avait quatre enfants dans sa famille. Tout ça, puis il y avait quand même, moi, ce qu'il m'avait confié en entrevue pour Avenue.ca, avec sa mère était une femme éprise de la langue française. Mmh. Elle avait vraiment une passion pour ça, pour les études. Ses parents avaient trouvé que c'était très important de voir leurs enfants réussir dans la vie, coûte que coûte. Donc, ils ont réussi à aller avoir beaucoup d'instruction, à se démarquer sur un plan académique, ce qui a permis à Serge Bouchard, donc, rapidement, de tout en gardant cette espèce de modestie, d'humilité, d'aller chercher des acquisitions académiques, du savoir, et de s'intéresser aussi avec l'ouverture transmise par ses parents, parce qu'il y avait des gens très humains avec une ouverture sur le monde, une curiosité. Donc lui, il s'est vraiment intéressé à la nordicité, d'où ses études en anthropologie. Hein. Il est docteur en anthropologie, spécialiste des peuples amérindiens. Il a été impliqué dans des firmes de recherche en sciences humaines. Il a été enseignant aussi, tout ça. Donc, il a fait des études sur la nordicité. Oui. Il a fait des études sur la côte nord, au Nunavik, à Baie James, Yukon, Labrador. Et oui. C'est ce qui l'a amené plus tard à faire un de ses livres marquants, qui est le peuple rieur.
Oui, absolument. Et j'ai un petit bout d'entrevue, si tu me le permets, que j'aimerais bien qu'on entende. Oui. C'était avec Franco Nuovo, cette entrevue-là, à Radio-Canada. Et il en parle justement de cet amour pour ce peuple-là, pour ces Indiens d'ailleurs, puisque c'est comme ça qu'il les appelle.
Le livre n'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de savants, c'est pas académique, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux écoliers, ça s'adresse aux cégepiens.
C'est un roman.
C'est 50 ans de passion fidèle pour le peuple Innu, que j'ai toujours aimé, que j'aime depuis 1968-69, et probablement que j'aimais avant. Et ça s'est jamais démenti. Et je raconte cette recherche, cette démarche. Mes premiers séjours de terrain, jeune, innocent, naïf, anthropologue, j'ai 20 ans, et j'arrive là, je connais rien, je sais rien. Et ces gens-là m'ont adopté. Et je raconte étape par étape. Et en racontant chacune des histoires, ma rencontre avec l'homme qui avait un rire si bon, parce qu'ils riaient de moi tout le temps, ces gens-là. Ils rient beaucoup, mais ils ont ri de moi tout le temps quand j'étais jeune.
Ils vous appelaient le barbu.
Oui, le barbu, Kawishtut, c'est mon nom. Et en racontant mes aventures, on traverse 50 ans, mais surtout on traverse toute l'histoire du peuple Innu, qui est exemplaire. C'est-à-dire, c'est un peu l'histoire de tous les Indiens du Canada. Je dis bien « Indiens » ici.
Oui, c'est ça. Je dis bien « Indiens ». Là, il me décomplexe parce que moi, j'ai toujours tendance à dire « Ce sont des Indiens ». Puis là, « Yeah !» Serge Bouchard dit la même chose. Bon, ça va.
Tu pourras le citer. La première fois, parce que lui, il a écrit beaucoup de décès liés à son travail, à ses recherches. Mais plus tard, il y a eu le moineau de Metz. Ouais. Histoire de vivre. Il y a eu après ça, justement, le peuple rieur. Il y en a eu, moi, qui m'ont profondément marqué, puis avec lesquels je l'ai plus découvert. C'était au temps des mammouths laineux.
Oui.
Bon, c'est pas pour rien qu'on l'appelait le mammouth, hein. C'est resté. Moi, c'est un nom qui me revient quand je pense à lui. Je vois un mammouth qui a malheureusement tiré sa révérence, mais que je croyais, justement, comme je disais, insubmersible. Oui. Avec Marie-Christine, ils ont écrit ensemble, ils ont couru l'Amérique, de remarquables oubliés. Oui. Elles ont couru l'Amérique aussi. Elles ont fait l'Amérique plutôt, de remarquables
oubliés. Oui. Mais excuse-moi, je t'interromps parce que tu vas vite, puis je voudrais dire aux gens que c'était au temps des mammouths laineux, existe en version audio et ça a été enregistré par lui et c'est sur le site de audio de Radio-Canada qui est consacré au livre audio. C'est gratuit. Tu l'as écouté.
Oui,
j'en ai un petit extrait. Tu me permets qu'on en diffuse un petit bout? Allez, on y va.
Je dis souvent à mes petits-enfants et à ma fille aussi,
encore jeune et toute petite, qu'il fut un temps où les ordinateurs n'existaient pas. Je leur explique que ce temps-là, eh bien, je l'ai connu. Oui, mes enfants, mes beaux petits-enfants, j'ai vécu dans un monde sans touche ni écran. Cela leur semble si impensable qu'ils en restent bouche bée. Incrédule, me dévisageant comme si j'étais un homme de 1000 ans. Je puis en mettre et en remettre encore, car il y a tant à dire. Oui, mes enfants, quand j'étais petit comme vous, il n'y avait pas de télévision dans nos maisons. J'avais 8 ans quand mes parents ont acheté la première, en noir et blanc. Bien sûr, avec des antennes bizarres qui ne garantissaient jamais une bonne réception. Plus je leur parle de ma jeunesse, plus leurs yeux s'écarquillent, plus le doute s'installe dans leur petit cerveau. Cela n'est pas possible, c'est une histoire de grand-papa, comme lorsqu'il nous raconte qu'il a mangé de l'ours, couché sous la neige, ou vu des milliers de caribous. Ou, la meilleure encore, qu'il a failli mourir noyé dans l'océan Arctique. Un jour sombre de novembre, qu'il fut recueilli par une belle esquimaude qui l'avait pris pour un blanchon.
Écoute, avoir un grand-papa comme, comme Serge Bouchard, t'imagines-tu?
Moi, je l'aurais bien pris comme mari, hein?
Ah! Oui, ça je comprends. Mais moi, je pense aux gamins, t'imagines l'ouverture d'esprit. Claudia La Rochelle.
Non, mais oui. Parce que je dis ça, parce que c'est un homme qui, oui, puis t'as raison, Clotilde, mais c'est un homme aussi, il faut le dire, puis ça, je tiens à le dire, qui mettait les femmes de sa vie, mais toutes les femmes à l'avant-plan. Ouais. C'était un gentleman. C'était pas un homme comme ces hommes. Là, il y en a des médiocres là qui n'aiment pas se faire damer le pion par d'autres femmes si brillantes, alors que lui, ben, il leur consacrait des livres, il les mettait à l'avant-plan. Ouais. C'est ce que j'admirais de cet homme-là qui est. Puis moi, ce que je disais, ce que je déplore, c'est qu'ils ont cassé le moule. J'ai l'impression qu'il ne s'en fera plus des comme ça. Donc, à la fois aussi ouvert sur le monde, gentleman, qui ne se sentait pas persécuté par le savoir ou la prise de lumière des autres, bien de son temps en même temps, tout en étant une autre époque, un ancien, comme il les appelait.
Et Jean-Philippe Plot qui parle, lui, ce qu'il va retenir, c'est son appréciation de l'ordinaire. Dieu que j'aime ça.
Ah, vraiment, oui. C'était ça. Ben, c'était ça. Puis surtout à la fin de sa vie, quand il était mobilisé, là, il marchait presque plus. Non, il avait plus accès à la route, comme il a pris la route beaucoup. Ouais. Il avait préféré la voiture aux avions parce qu'il avait peur de l'avion. Ouais. Donc, il était mobile parce qu'il avait du mal à se déplacer. Il était affecté donc par la maladie. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il était habité par ses pensées. Ouais. Et à ce moment-là, il faut développer son amour de l'ordinaire et de la quotidienneté, là, j'imagine aussi. Donc, tous les détails infimes de la vie prennent une certaine importance. Hein?
Ah oui. Moi, les yeux tristes de mon camion, dont je voudrais qu'on écoute un extrait, c'est également lu par lui. Moi, c'est un livre que j'aurais aimé apprendre par cœur, c'est pas mêlant. On écoute.
Merci.
Voyage au bout de l'espérance. Si j'avais un vaisseau pour explorer l'espace, je l'appellerais Espérance. Je me vois aux commandes, les yeux rivés sur l'immense tableau de bord, sur les boutons, les voyants, jetant parfois un regard à travers le hublot, alors que l'appareil s'enfoncerait dans le noir, entre deux systèmes solaires, ailleurs dans la galaxie. Les années succédant aux années, le temps de vol s'éternisant dans le siècle, mes passagers et moi aurions depuis longtemps oublié notre point de départ, et je ne saurais rien de notre destinée. Mes jours se passeraient en différents calculs à propos des réserves de carburant, des probabilités de frapper un mur d'astéroïdes, de l'énergie et de l'élan, de la machine à oxygène, de l'assurance de ne jamais arriver et de la certitude de ne plus jamais pouvoir revenir. Où sommes-nous sur la carte? Où sommes-nous dans cette infinitude qui embrouille notre position?
Ah, et cette voix qui va tellement nous manquer, extrait de « Les yeux tristes de mon camion », lu par Serge Bouchard, qu'on retrouve également sur le site de Livre audio de Radio-Canada, Audio. C'est terrible hein, d'être obligé de se quitter là-dessus. Moi, tu vois, mon fantasme, Claudia, ça aurait été de partir avec Serge Bouchard en camion, de partir dans le Grand Nord à la découverte d'un de ces peuples qu'il aime tant et découvrir, voilà. Moi, ça aurait été ça, moi. Mais bon, ça ne se fera pas dans cette ville-là, peut-être dans une autre. Un petit mot, parce que je sais que tu l'as lu, en quelques secondes, la semaine prochaine, je reçois Pascale Montpetit, lectrice du livre de Marie-Hélène Poitras, La Desiderata. Beau livre, gros livre, livre important. Hein?
Livre important, livre à prix, comme je les appelle. Une bombe a pris ce livre-là, La Desiderata, qui arrive après soudain le Minotaure, après Griffintown, trop longtemps après Griffintown. Je pense que ça fait 6 ans que Marie-Hélène Poitras, bon, peut-être des apparitions ici et là dans des collectifs ou des nouvelles, mais rien d'aussi consistant que sa Desiderata. Donc encore chez Alto, comme
oui, chez Alto,
cas,
oui.
Pour Griffintown.
Voilà. Et en audio au studio Bulldog, voilà.
Ouais.
Et je te coupe encore, j'ai l'impression de te couper tout le temps. À un moment donné, il faut que je fasse un spécial, Claudia La Rochelle, puis comme ça, tu viendras passer une heure avec moi. Merci Claudia, merci à Serge Bouchard d'avoir été des nôtres sur cette planète. Merci à Roxane Bouchard que je recevais en première partie de cette émission. Oui, elle est vraiment incroyable, on l'aime. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté qui m'accompagne toujours en régie. Au revoir tout le monde, au revoir Claudia.